C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
This is Barack Obama. Let's make America queer always with Chantal Maddow.
Bon, on va garder Barack Obama, ça sera plus Donald Trump. Chantal, allume ton micro pendant qu'on se prépare. Alors, un an après le retour au pouvoir de Donald Trump, le paysage des droits civiques aux États-Unis s'est radicalement transformé. Ce qui était autrefois des escarmouches législatives locales est devenu une offensive fédérale coordonnée contre les personnes de LGBTQIA+ et l'autonomie corporelle. Les reculs législatifs et symboliques s'accumulent avec cette première année du Trumpisme version 2.0. Chantal, ben, je vais le rappeler, elle est professeure au département d'études féministes et de genre à l'Université de l'Illinois. Surtout notre chroniqueuse d'actualité états-unienne queer. Chantal, on parle de 1000 projets de loi anti-trans examinés en 2025. Quels sont les pires états actuellement et quelle forme prennent ces attaques?
Oui, c'est assez alarmant, Denis Martin. On en a parlé ces derniers jours, toi et moi. Le nombre de projets anti-trans, on est passé de 21 en 2015 à plus de 1000 en 2025. Plus de 200 lois ont déjà été adoptées, les autres sont sous évaluation. Et surtout, plus de 500 ont été déposés depuis 2026.
Quand même.
Alors, c'est ça aussi qu'il faut quand même regarder, là. Donc, c'est énorme.
Qu'est-ce qu'on peut dire des États? C'est où là, les pires États? Je suis sûr que l'État le plus homophobe, c'est la Floride, mais je pense que je me trompe, c'est ça?
Oui, je sais que c'est ton bébé, là, que tous les problèmes viennent de la Floride. Non, le Kansas, en fait, c'est le premier à définir également le sexe de manière binaire et biologique en 2023.
Avant Trump, on va revenir là-dessus, oui.
Oui, et ce qui est aussi intéressant, c'est que toute ce que j'appelle la ceinture ou la cravate du Midwest, c'est vraiment là où ça se passe. L'Indiana, le Nebraska, la Louisiane et l'Oklahoma ont suivi avec des déclarations de droits des femmes, on s'entend ici cis femmes, qui servent en réalité à exclure les personnes trans. Des mesures concrètes, on en parle d'interdiction des soins de transition pour les jeunes. Il y a 27 États sur 50 qui interdisent désormais le sport féminin aux filles trans. Interdiction d'accès aux toilettes, 20 États, et même des poursuites civiles privées possibles au Texas contre ceux qui utilisent les mauvaises toilettes. Alors, il y a le syndrome de la toilette, mais il y a tout ce qui suit autour. Hein, et c'est ça qui est assez... je dirais inquiétant.
Bon, on a souvent l'impression que tout commence par Trump, mais ses reculs ont des racines pas mal plus profondes. Comment cette idéologie-là s'est-elle implantée là, aux États-Unis?
Bon, on parle beaucoup de la théorie du genre ou l'idéologie du genre aux États-Unis. Et ça vient des années 60-70. Ça a même été formulé par les groupes féministes de l'époque. Et sous l'administration Biden, et même sous Obama, hein, sur des administrations démocrates, il y a eu quand même des reculs assez significatifs. Aux États-Unis, après la légalisation du mariage gay en 2015, hein, au Bakersfield, comme on l'appelle toujours, les stratèges républicains ont cherché un nouveau morceau, je dirais, politique. Et ils l'ont trouvé dans les droits des personnes trans perçues comme moins compris par le grand public. Donc, ça a été vraiment important aussi, c'est qu'on cherchait à voir comment on pouvait attaquer les populations queer et pas seulement sur les gays et les lesbiennes, de dire, bon, c'est qui finalement qui échappe à cette espèce de discours public et c'est les personnes queer qui ont écopé. Et naturellement, depuis 2016, avec la Caroline et puis sa loi des toilettes et puis plein d'autres États aux États-Unis et leur loi des toilettes, on se retrouve avec cette espèce de je dirais, comme de fantoche là, pour s'attaquer aux droits des queers.
Ouais, les toilettes, hein, c'est toujours une espèce de point de contention. Mais finalement, c'est parce que peut-être s'il y avait plus de toilettes, ça irait mieux, mais en tout cas, c'est une autre paire de manches. Quels sont les impacts concrets sur la vie des gens et comment ça divise-t-il? Même le mouvement féministe se divise là-dessus.
Mais tu vois, il y a un groupe aux États-Unis qui est assez discret, mais qui est assez influent, qui a beaucoup d'influence. Le groupe s'appelle le Women's Liberation Front. L'acronyme, c'est WOLF, les loups. Et ça a été fondé en 2014. Ils se sont beaucoup associés à des organisations conservatrices pour promouvoir finalement une révision, définition biologique du sexe, acceptant de sacrifier les droits des trans, dans l'espoir de protéger le droit à l'avortement. Par exemple, en disant, on veut le droit à l'avortement pour les femmes cis, mais on le refuse, et le compromis ou c'est de dire qu'on ne veut pas que les femmes qui ne sont pas cis aient droit à l'avortement.
Ouais, en fait, pour donner un bon exemple là-dessus, si je comprends bien, on parle ici peut-être des hommes trans qui cessent de prendre des hormones pour pouvoir donner naissance à des enfants et peut-être décident, ah, ben, finalement, j'aimerais mieux me faire avorter, n'auraient plus accès à ça.
Exactement. Et ça a été vraiment. C'est sûr qu'on parle de vraiment un pourcentage très,
Très
très,
minime, oui.
très. Très minime, mais c'est quand même symbolique et c'est super important. Donc, on revient vraiment à une définition super traditionnelle et biologique du genre et du sexe, si
Ouais.
tu veux. En santé et économie, c'était la même chose. Ça a touché vraiment le mariage gay, mais aussi toute la question de l'accès aux soins de santé pour les conjoints de même sexe. En éducation, bon, on assiste à des fermetures dramatiques de département d'études des genres. Le tout dernier, je t'en ai glissé un mot il y a quelques jours, Denis Martin, c'est l'Université du Texas à Austin, qui est une des plus grandes universités publiques des États-Unis. On parle de plus de 60 000 étudiants et qu'ils ont décidé qu'à partir de 2027, le département d'études des genres va être fermé. Et ça suit et même si c'est le Texas, le Austin, c'est un peu comme c'est hein, Astérix et Obélix, ça, c'est vraiment le bastion au Texas de la démocratie libérale. Alors, ça fait vraiment, c'est assez dramatique. Et puis, il y a aussi la question de comme de plus en plus d'États se positionnent d'une façon très agressive par rapport aux droits des personnes trans, genre. Et alors, on assiste à vraiment une mobilité entre les États. Selon les derniers chiffres de ACLU, on parle de plus de 20% de la population qui s'identifie comme transgenre, qui change d'État pour pouvoir justement être protégé dans des situations ou dans des géographies beaucoup plus.
Donc, on parle d'aller dans l'État de New York, d'aller en Californie, entre autres choses, là.
Oui, puis en Illinois, bon, mais c'est ça. Donc, c'est assez dramatique quand même.
Ben, il
C'est ce
n'y
qu'on
a pas
appelle
ça, il n'y a pas
l'exil
seulement que
littéraire.
l'Université du Texas à Austin, là, qui a fermé ou qui a aboli son programme. Il y en a d'autres, hein. C'est arrivé en Floride, en Ohio, au Kansas. C'est un mouvement, ça.
Oui, c'est un mouvement. Puis je te dirais qu'en Illinois, c'est que j'appelle ça comment suffoquer les départements d'une façon très passive. Hein? Je veux dire,
Ouais.
les gens prennent leur retraite, on ne remplace pas les gens, on diminue les subventions. Et c'est les grandes universités d'État qui sont le plus à risque, si je peux me permettre. Les unités privées, c'est sûr qu'elles ont vraiment fait du baise-main et du lèche-cul avec Trump. Les universités publiques ont été beaucoup plus. Parce que 75% du fonctionnement des universités publiques dépend des fonds publics.
Ouais.
Alors, si on décide que ça ne nous tente plus hein, au niveau à Washington, ben voilà.
Rapidement, ça serait l'impact du fait qu'on aurait pu ce genre de programme sur les études féministes et de genre, on aurait pu ces programmes d'éducation sexuelle. C'est quoi l'impact que ça va avoir pour cette génération-là qui s'en vient?
Bien, ça m'inquiète, je te dirais, comme moi qui enseigne, hein, tu le sais. Alors, ça m'inquiète parce que déjà, ce qu'on assiste, même j'enseigne des cours de cinéma, et des films qui étaient pour moi disponibles sur nos sites universitaires pour les programmer dans mes cours, sont plus disponibles. Et c'est toujours des films queer qui sont les premiers à sortir, hein, qui sont les premiers à ne plus être disponibles. On dit, on n'a plus la licence, machin, machin, on n'a plus le. Alors, c'est ça aussi, c'est qu'on diminue, pour nos étudiants et nos étudiantes les plus jeunes, on diminue leur espèce de possibilité d'être exposée à ce genre de discours, à ce genre de représentation. Et ça m'inquiète énormément. Et c'est très sérieux parce que ça va très vite. En un an, moi. L'année passée, entre mon cours de cinéma de cette année et de l'année dernière cette année, il y a 6 films sur 15 que je ne peux pas montrer. Ils sont plus disponibles.
OK. Alors, c'est des décisions qui ont été prises par l'université et c'est ça qui se passe.
Oui.
Mais l'impact aussi, c'est que ces jeunes-là ne seront donc pas exposés à d'autres points de vue que celui peut-être de Charlie Kirk.
Charlie Kirk qui vient de l'Illinois, de toute façon,
Ouais.
en plus, c'est l'épine dans le talon, là, chez moi. Oui, et ça, c'est quelque chose aussi qui nous inquiète énormément. On essaie d'en parler avec nos administrations, mais en ce moment, c'est très frileux. Hein? C'est très, l'attitude est très passive. S'ils ne voient pas l'urgence, si on ne voit pas l'urgence, ça reste comme ça. Et c'est assez dramatique pour nos étudiants et étudiantes, je dirais.
On va parler de Stonewall, le site historique de Stonewall, pour conclure, parce que quand même, il y a une bonne nouvelle ou une mi-bonne et une mi-mauvaise nouvelle avec ça. On se rappelle que Donald Trump a voulu faire, en fait, il a enlevé le drapeau des fiertés sur le site historique de Stonewall. Stonewall, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est là où il y a eu ces fameuses émeutes de Stonewall qui ont mené au mouvement des fiertés un peu à l'international, là.
Oui, c'est ça. Alors, il y a eu toute une brasse camarade aux États-Unis par rapport à ça. Naturellement, le président Trump a décidé que le drapeau de la fierté, c'était un drapeau politique. Alors, il a demandé aux autorités de New York de retirer le drapeau du site historique, du monument de Stonewall à New York. Branle-bas de combat, les gens se sont mobilisés, on a ramené le drapeau, on a évoqué que ce n'était pas une question politique, mais historique. Et ça, pour moi, c'est un truc qui m'a un petit peu dérangé, je te dirais honnêtement. Et j'espère que notre histoire aussi va comprendre ça, c'est que tout drapeau est politique. Alors, on s'en sort pas. Et que de voir la communauté queer qui a décidé comment répondre à Trump et son administration en disant que c'était le drapeau de la fierté, c'était pas un drapeau politique, mais historique, ça m'a un petit peu dérangé, je te dirais. Et puis j'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu là-dessus. C'est bon, je comprends le côté, si tu veux, d'intervention public, et ça, je le comprends, mais au niveau politique queer, je m'interroge un petit peu sur ce genre de rhétorique.
Mais quand même, le maire très populaire de New York, qui s'est impliqué dans ce dossier-là, c'est quand même une bonne nouvelle.
Oui, ben c'est sûr que lui, là, il est sur une lune de miel. Alors, il devrait en profiter de toute façon. Je pense que il a le cœur à la bonne place, comme on dit. Mais disons que moi, ce que j'ai discuté avec des amis, des intervenantes, des activistes à New York, je dis pourquoi on n'a pas plus décidé de montrer le drapeau de l'inclusion
Oui.
plutôt que celui historique avec les bandes originales. Et je trouve que c'est comme un petit peu un rendez-vous manqué,
Mais on
je
répond
dirais.
quoi quand on leur demande?
Quand on leur demande, on me sort la rhétorique historique.
Ouais.
Et ça, ouais. Et en ce moment, on ne peut pas être seulement dans l'histoire. Et l'histoire, ce n'est pas apolitique. Et ça, j'insiste. Et ça m'étonne un peu que les queers défendent cette position-là, je te dirais.
Bon, maintenant, là, c'est une année. Faut quand même donner de l'espoir un peu aux gens. C'est une année
Oui,
électorale. Il
oui.
y a des choses qui risquent de changer, là, rapidement. Il ne nous reste qu'une minute, là. Rapidement, on peut s'attendre à quoi, là, dans les prochaines semaines, prochains mois? Il y a de la mobilisation qui se poursuit, là, aux États-Unis, pour contrecarrer Donald Trump.
Je pense que le mot d'ordre qui circule beaucoup dans les milieux activistes en ce moment aux États-Unis, je parle des grandes capitales, bien sûr, Chicago, New York, San Francisco, Los Angeles, c'est vraiment, on n'a rien à perdre. Alors, le côté toujours faire dans le médium saignant, là, c'est donc on y va pour le saignant. Alors, voilà.
Ben, de toute façon, avec toi, Chantal, on va toujours dans le fond du sujet et puis pas juste le saignant, on va dans la viande aussi. Merci beaucoup.
Ah,
On se reparle le mois prochain.
OK, à bientôt.